Fin de l'opération à Dimbéa. Les pompiers ont traité le dernier point chaud au Pic aux Chèvres cet après-midi. Expliquer le report des provinciales et évoquer la reconstruction. François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer, prépare son séjour sur le territoire. Il l'a dit au Sénat la nuit dernière. Nouméa, Bangkok, commercialisé. Le premier vol aura lieu le 11 décembre prochain. Une nouvelle destination s'offre donc aux Calédoniens. Offre de lancement à partir de 99 000 francs. Le sport est une victoire pour les Cagous à Fidji. La sélection calédonienne de foot a battu la Papouasie-Nouvelle-Guinée 3-1 cet après-midi. Vous entendrez la réaction du coach Johan Sidaner. Bonsoir et bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. À la une ce soir, les feux maîtrisés à Dimbéa. Le dernier point chaud a été traité sur le secteur du Pic aux Chèvres par les pompiers cet après-midi. En tout, une centaine d'hectares de brousse partie en fumée au cours des derniers jours. Une maison a également été touchée dans l'incendie de la pointe à la Dorade hier. La famille a dû être relogée et à chaque fois, derrière ces sinistres se trouve la main de l'homme. Écoutez Patrice Cuir, le secrétaire général de la mairie de Dimbéa.
Il y a deux pistes. Sur le premier incendie, c'est un écobuage mal maîtrisé. Mais par contre, sur l'incendie de la Dorade, c'est vraiment un acte intentionnel. D'ailleurs, on a intercepté les trois protagonistes de ce départ de feu. Donc ils ont été interceptés par notre police municipale et par la gendarmerie. Mais c'est vrai qu'en cette saison sèche, là, on a un arrêté sur la commune qui interdit l'utilisation des feux, que ce soit pour faire de l'écobuage, que ce soit pour faire des barbecues, etc. Là, vu les conditions météorologiques aujourd'hui, c'est quand même très très dangereux aujourd'hui d'allumer un feu, quoi.
Patrice Cuir, secrétaire général de la mairie de Dimbéa, qui était en direct dans notre édition de la mi-journée. Dans un communiqué, les élus de Génération NC, de leur côté, affirment que les habitants de Dimbéa se sentent trahis. Ils se disent profondément sidérés et attristés par les incendies qui, depuis plusieurs jours, ravagent une grande partie de la végétation à Dimbéa-sur-Mer. Et surtout horrifiés par la tragique destruction des habitations à la pointe à la Dorade. Ils estiment que si les dispositifs de surveillance des voisins vigilants n'avaient pas été levés, ce drame aurait pu être évité. Génération NC qui, en conséquence, demande à la mairie et aux forces de l'ordre de reconnaître leur incapacité à garantir pleinement la sécurité des habitations et d'autoriser à nouveau le redéploiement des dispositifs des voisins vigilants. Et puis toujours du côté de la sécheresse, j'ajoute que dans le Nord, le comité sécheresse VKP maintient le stade de crise sécheresse sur la zone. Un tiers des ressources est toujours dans un état critique. Résultat, des restrictions d'usage de l'eau sont prises pour y faire face. Lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine, le ministre chargé des Outre-mer se penchera notamment sur le dossier de la reconstruction. C'est ce qu'il a indiqué la nuit dernière pour nous en réponse à une question du sénateur Georges Naturel, Elisabeth Noir.
Le sénateur calédonien a d'abord remercié François-Noël Buffet de consacrer son premier déplacement à la Nouvelle-Calédonie et il a dressé le tableau d'un territoire qui traverse une crise politique, économique et sociale sans précédent et qui rentre dans son sixième mois de couvre-feu. Il a aussi exprimé le dilemme financier des maires qui doivent arbitrer entre leurs différentes priorités. Et il a interrogé le ministre chargé des Outre-mer sur les priorités du gouvernement. Dans sa réponse, François-Noël Buffet a indiqué que par son déplacement, il voulait témoigner aux Calédoniens de la solidarité nationale et il a rappelé les premières aides de l'État qui a géré l'urgence avec un apport d'ores et déjà de 400 millions d'euros. Et il a fixé deux axes à sa visite, la reconstruction et l'explication du report des provinciales.
L'objectif de ma visite porte aussi d'abord sur l'effort de reconstruction qui est absolument nécessaire. Dans l'urgence, c'est-à-dire demain en réalité. Nos écoles, nos bâtiments publics, nos entreprises, il faut que maintenant cette reconstruction démarre. J'irai bien sûr pour cela. Et puis j'irai aussi pour que nous inscrivions ensemble dans la suite pour la Nouvelle-Calédonie sur une stratégie un peu plus de longue durée, j'allais dire, de reconstruction et de perspective économique. Enfin, je viendrai aussi pour expliquer à l'ensemble de nos compatriotes et aux élus le fait que nous avons décidé de reporter les élections provinciales de la fin de l'année, d'expliquer pourquoi nous l'avons fait, les raisons pour lesquelles nous l'avons fait, de façon à ce que les choses sont extrêmement claires.
Le Sénat va examiner lors de sa séance du 23 octobre le report des élections provinciales et il va se baser pour cela sur une proposition de loi déposée par le groupe socialiste pour reporter au 30 novembre 2025 les élections qui devaient se tenir à l'origine avant le 15 décembre 2024. François-Noël Buffet qui ajoute qu'il rencontrera les maires à l'occasion de ce déplacement la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie du 16 au 18 octobre.
Dans le reste de l'actualité, la très vive réaction de la fin qu'a la note sur la refonte du modèle économique calédonien publiée par l'autorité de la concurrence, Elisabeth.
L'autorité de la concurrence souhaite détruire la production calédonienne ou ce qu'il en reste, affirme la FINC, la Fédération des entreprises et industries de Nouvelle-Calédonie, qui ajoute qu'il y a des limites à l'ignominie et que l'autorité de la concurrence doit être dissoute, ce qui fera faire des économies à la Nouvelle-Calédonie. Le ton est donné, c'est un vrai coup de gueule de la FINC qui accuse l'autorité de la concurrence de ne poursuivre que ses propres objectifs, c'est-à-dire, et je cite toujours, « soumettre l'économie calédonienne au libre-échange et à la mondialisation indépendamment des conséquences ». La FINC reproche à l'autorité de la concurrence de s'être autorisée dans sa note sur la refonte du marché économique calédonien à stigmatiser la production calédonienne, ses salariés et les mesures de régulation de marché. Elle parle de contre-vérité et de malhonnêteté intellectuelle qui relève de l'absurde et elle demande au gouvernement et au Congrès de dissoudre l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. La FINC qui annonce qu'elle produira une analyse détaillée de la note de l'autorité de la concurrence pour relever l'ensemble des manquements à la rigueur, le parti pris inconsidéré ou encore les manipulations opérées dans sa note. Ce matin, c'est le président de l'autorité de la concurrence, Stéphane Rotterer, qui était notre invité à 7h30. Demain matin, c'est Xavier Benoît, membre du bureau élargi de la FINC, qui sera notre invité du matin pour parler de la réorganisation de la FINC, mais aussi, bien sûr, de cette très vive réaction à la note de l'autorité de la concurrence.
Dans l'actualité économique toujours, les TPE face à l'effondrement de l'économie et à la crise née des violences insurrectionnelles, c'était le thème ce midi du jeudi de l'économie, Elisabeth.
Nous étions en compagnie des représentants de plusieurs organismes qui travaillent avec ces très petites entreprises qui les aident et qui les assistent. Comme toute l'économie calédonienne, les TPE ont beaucoup souffert de la crise née des émeutes qui ont débuté le 13 mai. Certaines d'entre elles ont eu leurs locaux détruits ou saccagés, mais même pour celles qui n'ont pas rencontré de problèmes d'insécurité, les conséquences ont été lourdes. C'est ce que souligne Émilie Olivier, la fondatrice du collectif d'entrepreneurs La Ruche, qui est située à La Foix.
C'est vrai qu'on n'a pas souffert de l'insécurité, mais des très grosses difficultés d'approvisionnement. Les personnes ne pouvaient même pas descendre aussi s'approvisionner en matières premières pour leur activité d'artisanat ou dans le bâtiment. Aujourd'hui, les fournisseurs demandent à être payés comptant. On ne peut plus ouvrir un compte avec des délais de paiement, etc. Non, on vient chercher ses fournitures, on paye tout de suite. On souffre énormément des délais de paiement de nos clients, des impayés, hein, carrément, il faut se le dire. Nous-mêmes, à La Ruche, on n'est que des TPE au service des TPE. On voit bien que la relance va être compliqué, pas impossible, mais compliqué.
Problème d'insécurité, d'approvisionnement, de transport, de paiement et au total un problème de trésorerie qui crée des situations de précarité, relève Ségolène Thomas, la directrice régionale de l'ADI.
Nous, à l'ADI, sur de nombreux diagnostics que les équipes de salariés bénévoles ont menés dès les premiers jours des exactions, le constat, il était simple, c'est que quand bien même peu, heureusement en tout cas parmi nos clients, peu ont subi des dommages directs, la quasi-totalité était à l'arrêt. Et pour des toutes petites activités, une activité qui est à l'arrêt, c'est de l'argent qui ne rentre pas, c'est par contre des charges qui continuent à tomber quand on a un loyer, quand on a des factures en cours de règlement, quand on doit payer ses cotisations sociales. Et donc cette absence de revenus m'a fait que le soir, il n'y a pas de pain à mettre sur la table. Et aujourd'hui, donc, les principales difficultés qui ont été exprimées, c'était bien celle-là, c'était un manque criant de trésorerie, aussi bien pour continuer et aujourd'hui pour redémarrer.
Face à ces graves difficultés, plusieurs organismes sont au chevet des TPE et ils les ont aidés à demander les aides auxquelles elles ont droit. Manon Ménard est coordonnatrice de projet à Initiative NC.
On a bien vu la problématique des gens qui aujourd'hui n'ont pas forcément toujours accès à Internet, ne savent pas faire. Donc on était là pour les aider. Mais également les délais de réponse. Donc on a pu voir des fois des délais de plusieurs mois pour avoir une réponse, des fois négative, pour une erreur assez simple. C'est vrai que le fait d'avoir effectivement ce retour plus tôt nous aurait permis d'anticiper et de pouvoir refaire la demande. Et aussi l'obtention de l'aide, le virement qui, en tout cas pour nous, quand on fait le ratio entre les charges réelles de l'entreprise et le chiffre d'affaires qui n'est pas arrivé, l'aide était vraiment insuffisante. Ça ne suffisait pas en tout cas à l'entreprise pour sortir la tête de l'eau.
Des aides difficiles à obtenir ou qui sont versées avec retard, même si ces TPE peuvent bénéficier du Fonds de solidarité de l'État ou des aides de la province Sud ou de la province Nord. Mais elles sont confrontées à un autre problème, celui de l'économie parallèle qui s'est développée en raison de la crise économique, avec des étals sur le bord des routes ou l'exemple des taxis 1000 et des navettes 1000. Une situation qui inquiète les artisans, souligne Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat.
Nous avons un tissu économique qui est normalement structuré. Vous parliez tout à l'heure de petits patentés. Ces gens payent une patente à l'année. Ils payent leur RUAM. Et tous ces petits marchés font une vraie concurrence déloyale à l'ensemble du monde économique et empêchent aussi de rentrer des finances pour la collectivité, pour financer des politiques publiques, pour financer la santé. Donc à un moment, on peut entendre ces choses. Il n'y a plus à avoir une tolérance, mais je crois qu'aujourd'hui, et on a beaucoup de retours de nos artisans qui se plaignent, on a fait appel à la DAE pour essayer de gérer ce problème. On en a parlé aussi aux élus du gouvernement. C'est quelque chose qui ne peut plus aujourd'hui se poursuivre dans le temps parce que ça met en péril notre modèle économique.
Une position partagée par Dominique Lollon, le président d'Initiative NC. Il indique qu'il faut savoir ce que l'on veut.
Est-ce qu'on veut en fait un mode complètement libéral et à ce moment-là, chacun se débrouille? Ou alors est-ce qu'effectivement, en fait, on veut quelque chose qui soit un peu plus solidaire et qui permette aussi de pouvoir accompagner tout le monde? Et donc, chez Initiative, on a fait en sorte, pour certains des porteurs qui venaient nous voir pour des projets, de les remettre dans l'économie formelle. Et ça, c'est un point important. L'économie informelle, c'est un problème qui fait qu'il y a des gens qui vont effectivement faire des efforts pour payer leurs cotisations, pour payer leurs impôts, pour être, je dirais, en règle, et d'autres qui vont essayer de bénéficier d'aide sans contribuer.
Mais la solution pour certains des intervenants, c'est aussi d'accompagner ces initiatives informelles nées de la crise, en leur apportant les outils qui leur permettront justement de rejoindre l'économie réelle.
Les TPE face à la crise, un jeudi de l'économie à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. En bref, la Fédé écrit au président du gouvernement Louis Mapou. L'organisation syndicale se dit d'y soutenir sans réserve l'initiative du gouvernement et son plan S2R. La Fédé s'oppose toutefois à la vision du MEDEF sur la réduction des dépenses de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, les dépenses publiques. La Fédé craint une baisse du nombre de fonctionnaires notamment et dénonce, je cite, des propositions populistes, démagogiques et improductives.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et avant de refermer cette page, c'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Êtes-vous favorable à la présence d'effectifs de gendarmerie en renfort de la police dans certains quartiers de Nouméa, comme c'est le cas par exemple à la Vallée du Tir? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, alors que le comité de décolonisation de l'ONU était réuni à New York, 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pense qu'il est utile que les partisans de la France s'expriment à cette tribune. Ils ne sont que 3% à penser que ça ne sert à rien. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à notre question du jour. Et enfin, rendez-vous sur notre antenne, c'est le maire du Mont d'Or, Eddy Lecourieux, qui sera demain l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur l'état de sa commune, près de 5 mois après le 13 mai, sur la façon dont il fait face à la situation de Saint-Louis et au blocage de la RP1. Eddy Lecourieux, invité de Transparence, est donc à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Il est 17h passé de 58 minutes. On va marquer une pause publicitaire avant de voir la suite de l'actualité et notamment cette nouvelle destination nommée à Bangkok.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal avec vous, Nicolas Legrand.
Et les Calédoniens qui pourront donc bientôt s'envoler pour la Thaïlande après l'ouverture d'une ligne Nouméa-Paris via Bangkok. Air Calin propose maintenant des vols entre Nouméa et la capitale thaïlandaise, Charlotte Coulson.
Avec un tarif de lancement de 99 000 francs l'aller-retour en classe économique, la compagnie aérienne attendait le feu vert des autorités thaïlandaises pour lancer cette offre. C'est chose faite puisque dès le 11 décembre, deux vols partiront chaque semaine de Tantouta, avec la possibilité également d'un stop-over pour les passagers se rendant à Paris. On écoute les précisions d'Arnaud Gervais, directeur commercial et marketing d'Air Calin.
Jusqu'à maintenant, on avait annoncé il y a quelques semaines donc l'ouverture de notre ligne vers Paris et donc des ventes de ces produits vers Paris. La nouveauté du jour, c'est l'ouverture des ventes sur le segment Nouméa-Bangkok et Bangkok-Nouméa qui sont désormais accessibles et disponibles à la vente puisque nous avons eu confirmation et autorisation des autorités thaïlandaises. Notre produit vers Paris prévoit la possibilité d'un stopover sur la capitale thaïlandaise si on veut non pas aller à Bangkok mais y séjourner 2-3 jours sur le trajet vers Paris. Notre produit l'a prévu et c'est une bonne opportunité pour découvrir cette nouvelle destination.
Une liaison qui représente une source de revenus complémentaires pour la compagnie aérienne. On rappelle que la suspension des lignes Melbourne et Tokyo ainsi que l'allègement des vols régionaux sont un gros manque à gagner pour ACI. La ligne Nouméa-Bangkok s'inscrit donc dans le cadre d'un plan de sortie de crise d'Air Canin. Arnaud Gervais.
C'est effectivement pour Air Canada une réponse à la situation très difficile que connaît à la fois le pays et la compagnie aérienne de se projeter sur une nouvelle destination, très long courrier, pour pouvoir utiliser les ressources de la compagnie sans avoir à avoir recours à des dispositifs de chômage partiel ou se séparer de collaborateurs qui nous sont précieux. Donc oui, ça c'est complètement une réponse à la crise que traverse le pays.
Et les réservations sont dès à présent ouvertes. Le premier vol est prévu pour le 11 décembre.
Et si vous envisagez de partir à Bangkok, pensez à vérifier la validité de votre passeport. Vous serez d'ailleurs nombreux à refaire vos papiers pour pouvoir voyager avant les grandes vacances scolaires, Léana Colombo.
Le passeport, un graal pour qui veut voyager, que cela soit un week-end en Australie ou pour rendre visite à de la famille en métropole, ce petit carnet est plus que nécessaire. Il faut donc s'assurer de sa date de validité. De plus, de très nombreux pays exigent que le passeport soit encore valable 6 mois après la date de sortie du territoire. La démarche de renouvellement est d'autant plus importante à effectuer en Calédonie, explique Jean-Luc Boursier, directeur du Conseil des élections et de la citoyenneté au Haut-Commissariat.
Il ne faut pas oublier qu'on est ici sur une île. Et on a même un phénomène de double insularité, puisqu'il y a aussi des archipels. Et donc, on peut être amené à se déplacer sur l'Ifou, sur l'île des Pins. Et là, un document de voyage, un passeport, c'est essentiel. Mais même, pour ce qui concerne ces îles-là, une carte d'identité suffit. Quand il s'agit maintenant d'aller en dehors de l'archipel, de voyager vers d'autres pays, c'est important de regarder la date de validité de son passeport. Tout le monde pense avoir un passeport qui est dans un tiroir, mais malheureusement, sa date de validité est dépassée. Et là, c'est très embêtant parce que si la date de validité est dépassée, bien entendu, on ne peut pas prendre l'avion. Tout à chacun peut être frappé par un problème dans une famille qui est éloignée de la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde peut être, à un moment ou à un autre, avoir besoin d'un passeport pour partir dans les 8, 15 jours, peut-être même sur des délais plus courts.
La durée de validité d'un passeport délivré à une personne majeure est de 10 ans et celle d'un passeport délivré à un mineur est de 5 ans. Et si vous prévoyez déjà vos vacances de décembre, attention à ne pas vous faire surprendre par le délai d'obtention du passeport, rappelle Jean-Luc Boursier.
En règle générale, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, il faut 2 mois pour avoir un passeport, en comptant bien entendu le délai de prise de rendez-vous en mairie. Bien évidemment, si vous avez projeté d'aller en vacances à partir du 15 décembre prochain, il est largement temps maintenant de vous déplacer en mairie et de demander effectivement la délivrance d'un passeport, éventuellement son renouvellement. D'autant plus que c'est très simple, le renouvellement d'un passeport, c'est un justificatif de domicile, un timbre, une photo, puis bien entendu son passeport qui est à renouveler. Et si le passeport, il a encore une validité de 7-8 mois, eh bien on le renouvelle. On ne prend pas le risque de se retrouver par exemple coincé à Singapour avec un passeport qui ne serait plus d'une validité au-delà de 6 mois. Donc c'est quand même très important d'avoir des documents qui sont valides.
Des dispositions à prendre d'autant plus en amont si vous habitez dans le Grand Nouméa. En effet, lors des événements du 13 mai, 2 dispositifs de recueil de données biométriques de la mairie de Nouméa ont été brûlés. Vous pouvez déposer votre demande auprès de toutes les communes, quel que soit votre lieu de résidence. Et pour gagner du temps, il est possible d'effectuer une pré-demande en ligne sur le site internet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Et pour la suite du journal, on va rester dans les transports, mais terrestres ce coup-ci, avec le rail qui reprend un peu plus du service, puisque dès demain, sur la côte Est, il sera de nouveau possible de prendre le car, Charlotte Coulson.
Le SMTI annonce que la route entre Yingen et Wailou étant de nouveau accessible, les usagers pourront bénéficier de nouvelles lignes. Elles desserviront Yingen, Point-Dimier, Touo, Ponériouin, Wailou, Puebo et Koné. Les précisions de Ludovic Lombard, directeur du SMTI.
Ça fait plusieurs semaines que la réouverture de ces lignes de la côte Est était envisagée et on avait quand même pas mal d'entraves avec des doudanes qui étaient très très hauts et qui permettaient pas aux bus de pouvoir passer ou alors des carcasses qui étaient encore positionnées. Depuis le début de semaine, la situation a clairement évolué. Il n'y a plus rien qui obstrue le passage des bus à part quelques cornes qui sont placées par endroits sur le chemin. Donc l'ensemble de ces lignes sont réouvertes à partir de demain. Il y a uniquement les lignes de Tio et de Yate qui sont toujours fermées. On n'a pas pu ouvrir par rapport à la situation de blocage qui persiste à Saint-Louis et sur la transversale entre Boulle-Paris et Tio.
Et la liaison en direction de Thiau ne peut pas se faire pour le moment en raison de la présence d'un poids lourd brûlé positionné sur la route et bloquant le passage du bus. Dès que la carcasse sera levée, la liaison pourra reprendre. Et malgré la réouverture de ces lignes, les bus ne retrouvent pas leur taux de fréquentation d'avant émeute du 13 mai. Ludovic Lombard explique qu'ils devront procéder à une réorganisation.
La première semaine, on avait à peine 10% de remplissage. La deuxième semaine, on était entre 15 et 18. La troisième à 20, 25. Donc là, ça augmente progressivement. On doit être aux alentours des 30, 35% de taux de remplissage. Mais ça reste très, très insuffisant par rapport aux dépenses qui sont engagées pour le maintien de ces lignes. On sait que les lignes comme Yangen sont très remplies. De manière générale, le taux de remplissage est aux alentours des 50% sur l'ensemble de ces lignes. Il n'empêche qu'il faudra qu'on regarde absolument le taux de remplissage pour qu'on mette le nombre de bus nécessaires aux usagers. Pour vous donner un exemple, sur certaines rotations, par exemple entre Temala et Nouméa ou entre Koumak et Nouméa, on a des bus qui sont vides, personne, donc on roule à vide, ou une ou deux personnes à bord. C'est exceptionnel, mais ça arrive. C'est certains jours de la semaine qu'on constate ce remplissage. Il est fort probable qu'on ait la nécessité de réduire le nombre de services où les jours sont très très peu fréquentés.
Les horaires et les trajets sont disponibles à retrouver sur le site internet du rail.
Une grande fête, place des Cocotiers. Tahiti était à l'honneur pour la reprise des jeudis du centre-ville aujourd'hui. Depuis 9h ce matin, les visiteurs peuvent profiter de nombreuses animations, mais aussi découvrir les spécialités polynésiennes, Charlotte.
120 exposants rassemblés au centre-ville qui n'avaient pas été si animés depuis longtemps. Sur place, on retrouve de nombreux produits phares de la culture tahitienne. Salade de poisson, tenues traditionnelles ou encore perles de Tahiti. Autant de produits venus tout droit du Fénois que sont venus proposer les vendeurs rencontrés cet après-midi.
L'association Heitiare. Nous avons des ukulélés. On a aussi un peu d'artisanat, donc des chapeaux moulins avec des paniers. Nous avons ici des parfums à base d'huile de coco vierge.
Je suis Madame Lise de chez Lise Création. Donc c'est une affaire familiale qui date de 30 ans. Je suis issue d'une famille dont les parents étaient bijoutiers en Polynésie. Mon mari également était dans les femmes perlières à Manihi. C'est important d'être là, de représenter Tahiti. C'est génial. Donc vraiment, il fait très très beau et les gens sont heureux, sont souriants, comme nous, comme les Polynésiens.
Moi, je m'appelle Marie-Lou, je suis créatrice de bijoux. Donc j'aime bien dire que je m'inspire des îles en général. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est magnifique, toutes les couleurs. Je suis super contente.
Alors on a du pois fafa, du matinto, de la salade de poisson, que des bons plats, que du fait Tahiti, et puis super bon. Fait avec amour.
À midi, les visiteurs ont pu assister au concours du plus gros mangeur de Fafaru. Cet après-midi, c'était atelier tressage et marathon de tamouré. De quoi divertir le public venu nombreux.
Je suis en train de faire le tour des stands. C'est ambiancé, agréable. Il y a beaucoup d'énergie, donc c'est très sympa. Qu'est-ce que vous avez choisi? Un collier de coquillages. Où il sera pour offrir?
Ben là, je suis venue chercher un pot à la tomate. Il n'y a que chez Caro qu'on peut en trouver et c'est très bon.
Il y a de la variété, magnifique le travail des tourapés sur le tressage. Je viens de voir le très beau tiféfei, parure de lit. Puis sinon, vous avez plein de choses à manger, les gâteaux tahitiens, le fafarou là, ni le porc croustillant.
Et faites vite car il ne vous reste plus longtemps pour profiter des danses et chants traditionnels. Le jeudi du centre-ville spécial Tahiti, c'est jusque 19h ce soir.
Et puis à partir de demain, place au 24e salon des collectionneurs qui animera la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa. Amateur de belles pièces et passionné de collection, l'occasion de découvrir 35 exposants. Cette année, ne manquez pas, par exemple, une exposition exceptionnelle de mobilettes. Vous pourrez admirer de modèles rares et vintage qui ont marqué des générations. Écoutez Jean-Pierre Bressler, il est l'un des organisateurs de ce salon des collectionneurs.
Pour la thématique du salon, c'est le vélomoteur ou la mobilette. On a trouvé un collectionneur qui va exposer presque une demi-douzaine de mobilettes. Il y a un autre collectionneur, c'est une première aussi, qui va exposer des emballages de sucre. Et puis les éphémères, les fanas de modèles réduits. Il faut savoir qu'en Calédonie, c'est petit. Et dans le domaine de la collection, ben, tout le monde se connaît. Le salon, c'est l'occasion de connaître des nouveaux collectionneurs, des jeunes collectionneurs, et puis de les faire venir. Les faire venir au salon, les faire adhérer au club philatélique Le Cagou ou dans d'autres domaines de collection.
Qu'est-ce qui intéresse le plus les visiteurs sur ce salon des collectionneurs? C'est le patrimoine calédonien?
Les ouvrages sur la Calédonie, contemporains et anciens, les coquillages Calédonie, dans certains endémiques, des cartes postales anciennes, la CPA, 1900-1920. Sur la Calédonie, il y a des sculptures, principalement beaucoup de choses sur la Calédonie. Quoi.
Échanges, ventes, découvertes et passions seront donc au rendez-vous. Vous aurez également la possibilité de faire expertiser vos objets et faire estimer ainsi vos collections. Le salon des collectionneurs, c'est à partir de demain jusqu'à dimanche, de 8h à 18h dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. L'entrée sera gratuite et vous retrouverez évidemment le stand Radio Rythme Bleu puisque nous sommes partenaires de l'événement. Il est 19h-18h, passé de 10 minutes. Merci d'être avec nous. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive et notamment cette victoire des Calédoniens à Fidji. On parlera football face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB, première radio d'information.
La suite du journal avec vous, Nicolas Legrand.
L'actualité dans la région et en Nouvelle-Zélande, la police a procédé à la saisie de 515 kilos de méthamphétamine. La drogue était en provenance des États-Unis et c'est la correspondance ce soir de Jean-Pierre Zajac.
Ces 515 kilos de méthamphétamine ont été découverts dans un chargement de lourdes poutres en acier dont certaines présentaient des irrégularités. Un examen au rayon X a effectivement révélé que la partie centrale de plusieurs d'entre elles recelait de larges quantités de méthamphétamine dont la valeur à la revente a été estimée à environ 38 milliards de nos francs. Le chargement illicite a été livré à un entrepôt proche d'Auckland où 5 individus ont été arrêtés en flagrant délit alors qu'ils éventraient les poutres en question en vue d'en extirper leur contenu. Deux de ces délinquants étaient des ressortissants néo-zélandais, détenteurs de passeports kiwi, mais établis en Australie, qui s'étaient rendus à Auckland en vue d'y participer à la récupération de la drogue. Tous ont été inculpés pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la prison à perpétuité. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et on termine ce journal avec le sport en football. La sélection calédonienne est à Fidji, vous le savez, pour disputer les éliminatoires à la Coupe du Monde. Cet après-midi, les hommes de Johan Sidaner ont donc battu la Papouasie-Nouvelle-Guinée 3-1. Écoutez la réaction du coach calédonien à l'issue du match.
On avait besoin de ça. Ils sont allés avec un cœur énorme. Vous savez qu'à 2-0, c'est une position qui n'est jamais facile. À la mi-temps, on avait pris un avantage. Mais 2-0, on ne sait pas si on doit attaquer ou préserver. C'est vrai qu'on... On a dû composer avec ça. Ce but de Papouasie nous a mis un peu de doute, mais ce troisième but est arrivé au moment où il fallait.
Et la sélection se reposait en novembre aux îles Salomon et à Fidji. L'objectif, c'est de terminer premier ou deuxième du groupe pour rejoindre ainsi les demi-finales. Et puis retour ce soir sur cette très belle performance d'un Calédonien qui est désormais vice-champion du monde de force athlétique. Axel Raymond a décroché l'argent en Afrique du Sud en catégorie Master 1, 93 kilos. Ses résultats, tout simplement, époustouflants puisqu'il a bien battu ses performances. 272,5 kilos au squat, 172,5 au développé couché et 295 kilos au soulevé de terre, une performance qui restera dans les mémoires de Kenny Wendt, son entraîneur en Calédonie.
C'est une grosse performance pour Axel et c'est aussi le résultat d'un entraînement intensif pendant 9 semaines. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 9 semaines, on a réussi à gratter pratiquement 30 kilos sur son total. Donc ce qui l'a emmené à réaliser 745 kilos pour ces championnats du monde-là. À signaler que Axel s'est rendu à ces championnats du monde-là sans coach en présentiel. Donc c'était difficile de. On a fait avec, on a géré via Messenger, et c'était pas facile avec le décalage. Un titre de vice-champion du monde, c'est énorme pour nous, ça fait du beau mon cœur pour la discipline de la France athlétique.
Et la fierté de l'entraîneur d'Axel Raymond.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et pour conclure ce journal, mon cher Nicolas, la météo, c'est avec vous.
Alors, cette nuit, les nuages persisteront sur l'extrême sud des Loyautés et le sud-ouest en donnant de rares ondées. Belles éclaircies sur les autres régions. Le vent moulira souvent de 5 à 10 nœuds de secteur sud-est. Il soufflera entre 10 et 15 nœuds vers l'île des Pins et aux Loyautés. Les températures minimales resteront stables, généralement de 18 à 21 degrés et jusqu'à 14 à 17 degrés dans les terres. Demain matin, temps très ensoleillé. Quelques nuages aborderont la pointe sud et l'île des Pins en fin de matinée. Le vent de sud-est reprendra progressivement avec 10 nœuds sur le nord-est et la pointe nord, 10 à 15 nœuds ailleurs, voire 15 à 20 nœuds en fin de matinée sur le nord-ouest, le sud de la côte est et vers Ouvéa, Nicolas.